d'où qui peut donc
les familles heureuses se ressemblent toutes.
J'avais 20 ans.
Les familles malheureuses.
C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire. Ça a débuté comme ça.
Chen tenterait-il de lever la moustiquaire?
Longtemps, frapperait-il
au travers? Ou peut-être hier, je ne sais pas.
C'était à Mégara.
La première fois qu'Aurélien vit Bérénice,
dans les jardins d'Amilcar,
il la trouva franchement laide.
Sandrine Trainer, Augustin Trapenard, Les Bonnes Feuilles.
C'est l'époque où je vivais dans une voiture. Au début, c'était juste pour rire. Ça me plaisait d'être là, dans la rue, sans rien faire. Je n'avais aucune envie de démarrer. Pour aller où d'ailleurs? Je me sentais bien sous les arbres, rue de la Chine. La voiture était garée le long du trottoir, en face du 27. Il y avait des pétales de cerisier qui tournoyaient dans l'air. Ils s'éparpillaient avec douceur sur le pare-brise, comme des flocons de neige. C'était un dimanche, vers 20h. Je m'en souviens très bien parce que ce jour-là, on m'avait mis à la porte. Depuis quelques mois, je n'arrivais plus à payer le loyer. La propriétaire de la chambre m'avait rappelé à l'ordre, et puis ce matin-là, elle a frappé à ma porte. Comme je n'ouvrais pas, elle s'est mise à hurler que j'avais la journée pour quitter son meublé. Je me suis rendormi avec une légèreté qui aujourd'hui me paraît extravagante. À l'époque, j'accordais peu d'importance à ce qu'on nomme les relations humaines. Peut-être n'avais-je pas besoin de faire croire aux autres que j'étais vivant. Bref, j'ai traîné toute la nuit au lit, puis vers la fin de l'après-midi, alors que la lumière d'avril entrait dans la chambre avec ses couleurs chaudes, à ce moment où l'on prend plaisir à baigner son visage dans les rayons du soleil, j'ai rassemblé mes affaires. Ça faisait à peine 3 cartons, du linge, des livres et une plante verte, un papyrus qui m'accompagne depuis toujours. Depuis quelques mois, j'avais perdu le fil. Ma vie devenait évasive, presque floue. Je ne sortais plus de chez moi que la nuit pour acheter à l'épicerie du coin des bières, des biscuits, des cigarettes. Est-ce que je souffrais? Je ne crois pas. Il y avait un coin dans ma chambre entre le radiateur et le lit qui me plaisait énormément. Je m'y installais dès le réveil. Être assis là, sur le plancher, le dos bien calé dans l'angle du mur, cela me suffisait. Ce coin n'avait rien de particulier, mais une lumière y venait vers 17h, une lumière spéciale qui me rendait heureux, une sorte de halo rouge, orange, jaune, qui avançait au fil des heures le long du mur jusqu'à ma tête, qu'il finissait par couronner. Une flamme déchire les lignes. Elle fait tourner votre solitude dans la lumière. Qu'est-ce qui m'arrivait dans cette chambre? Est-ce que je faisais déjà de la place en moi pour les renards pâles? J'ignore si ce que je vivais avait le moindre sens. Mais voilà, j'étais capable d'attendre chaque après-midi l'arrivée d'une auréole au-dessus de ma tête. Une telle attente remplissait mes journées, elle les sortait de l'ordinaire, en un sens, elle les consacrait. J'ai conscience en vous décrivant cette période de ma vie de son étrangeté. D'ailleurs, quelques amis ont pensé que je traversais une dépression. Comment savoir? On ne fait parfois que subir ce que l'on croit désirer. J'avais très peu d'argent, une allocation chômage qui diminuait chaque mois parce que j'étais négligent et ne remplissais pas les formulaires. Mais je me sentais bien dans ce vide. Je tenais fermement mon auréole. Mon désœuvrement était une expérience. Je me préparais. J'étais, je suis, je serai toujours absent. Quelque chose manque à la consistance du monde, et à cette chose qui manque, je m'identifie. Vers 20h ce dimanche-là, après avoir fermé les volets et coupé l'électricité, j'ai descendu les 3 cartons, je les ai chargés dans le coffre de la voiture, puis j'ai glissé les clés de l'appartement dans la boîte aux lettres, comme me l'avait demandé la propriétaire. Pas d'état des lieux, rien. De toute façon, je n'avais versé aucune caution. J'étais donc à la rue. Ça vous prend à peine quelques jours pour dégringoler. Un soir, vous vous rendez compte qu'il est trop tard. Dans mon cas, ça n'était pas encore dramatique, j'avais la voiture. On me la prête depuis 2 ans, elle appartient à un ami qui travaille en Afrique. Je veille sur elle, au cas où il reviendrait en France. En entrant dans la voiture, je souriais. Les pétales des cerisiers flottaient dans la rue. Sur le pare-brise, ils formaient des nymphéas. Il y avait des reflets roses et blancs, du mauve, un calme de solitude dans la lumière du soir. Je crois que j'étais soulagé d'en avoir fini avec cette période. J'aime bien les nouveaux chapitres. La fraîcheur vient avec la vie nouvelle. On dirait qu'elle vous aide. Même si j'ignorais ce que j'allais faire, ma vie se dégageait. Elle s'ouvrait de mieux en mieux. C'était ça l'important.
Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Bonjour Augustin.
Bonjour Sandrine.
Yannick Hennel, vous venez de nous lire les premières pages de votre nouveau roman qui paraît à la rentrée aux éditions Gallimard et qui s'intitule « Les renards pâles ». On a entendu, c'est l'histoire, en tout cas ça commence comme ça, l'histoire d'un homme qui décroche. Mais j'ai envie de peut-être commencer avec Augustin à vous interroger sur la question de l'incipit. Comment on entre dans un roman? Comment on écrit l'entrée dans un roman, Yannick Hennel?
C'est au départ une rêverie qui est en même temps une pensée. En l'occurrence, il s'agissait d'un fait divers que j'avais lu dans une revue qui s'appelle L'Impossible. Et ça s'est passé il y a 2 ans, en été, en Grèce, au plus fort de la ruine de ce pays, la ruine organisée. Un sans-abri qui dormait dans un conteneur de poubelle dans la rue a été broyé dans le camion poubelle qui ramassait ce conteneur. Et cet accident, je l'ai lu comme un symptôme, comme le symptôme d'une programmation de broiement de tous les corps, c'est-à-dire la transformation des corps en déchets. Et il se trouve que j'écrivais un peu dans le vide, si je puis dire, une histoire de quelqu'un qui est exproprié. J'avais l'intuition que l'expropriation, je veux dire l'expropriation de notre propre vie, était ce qui se passait à tous les niveaux, qu'on soit dans la misère la plus absolue ou qu'on soit dans l'aisance. Chacun, aujourd'hui, est exproprié d'une part de soi-même. Et j'ai connecté ce fait divers avec cette situation que j'écrivais, d'un type qui vit de manière un peu distraite dans sa voiture. Et au fur et à mesure que j'écrivais cette histoire, que je glissais dans ce vide, j'ai accordé à cet homme qui vit dans ce qu'il appelle l'intervalle, une solitude politique. Mon idée très, très simple de départ, au fond, c'était que l'expropriation en cours nous ôte tout sentiment politique, toute possibilité de réagir, et que précisément cet homme distrait qui se laisse glisser dans quelque chose qui va devenir la pauvreté, qui en tous les cas est un vide, devient précisément de plus en plus politique, alors qu'il ne l'était pas, alors qu'il s'en foutait complètement. Et je me suis rendu compte que cet homme pouvait être identifié à ce sans-abri qui, en Grèce, a été broyé. Et voilà, j'ai commencé à bâtir une histoire, mais vraiment, je dirais, j'ai utilisé le terme de glissement, et c'était une histoire qui n'avait pas de but préétabli.
C'est-à-dire que vous ne saviez rien, ni de la fin, ni des rebondissements, ni de l'intrigue à venir?
Absolument. Pour moi, il s'agissait de me poser une unique question qui consiste à savoir quel sens peut avoir une solitude aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut échapper au conditionnement? Est-ce qu'il existe une place, un lieu, quelque part, en dehors du marché, en dehors de l'homologation, en dehors de cet asservissement presque sans figure qui a lieu. Et je cherche dans chacun de mes livres ce lieu, un lieu libre, celui de ce que Rimbaud appelait dans d'autres coordonnées la liberté libre. Et il se trouve que je suis obsédé par l'Afrique depuis des années qu'à l'époque je vivais, quand j'écrivais ce livre, je vivais dans le 20e arrondissement à Paris, que je me suis mis à décrire très naturellement. Et que près de chez moi, il y avait un foyer de travailleurs immigrés à Belleville, que je croisais, que je rencontrais. Et ces travailleurs sont tous maliens. Et comme je vous le disais, je suis très obsédé par l'Afrique et par les religions africaines et par la grandeur de l'histoire de l'Afrique. Certains disent que l'Afrique est sans histoire, c'est évidemment tout le contraire. Et en particulier, j'étais obsédé par les Dogons. Et je lisais, relisais sans cesse les livres de Marcel Griaul et celui de Léris, l'Afrique fantôme. Et un jour, en parlant avec un jeune Malien à Belleville, j'ai été frappé par sa noblesse. Et je me suis dit, c'est un Dogon. Comme vous le savez, les Dogons sont un peuple issu depuis le XIIe siècle, un peuple d'aristocrates qui essaye d'échapper à l'islam, un peuple qui s'est rassemblé autour des falaises de Bandiagara. Et je me suis dit, d'un coup, j'ai vu la situation française d'une toute autre manière. Je me suis dit, ceux qu'on laisse à l'écart, les marginaux africains, ceux qui n'ont pas de papier, ce sont les nobles, ce sont les aristocrates de la France. Et pour moi, la situation se retournait complètement.
Mais justement, au-delà de la direction qu'a prise ce roman, au-delà de l'Afrique, il me semble que le thème de l'homme seul traverse tous vos livres, qu'il se passe en France ou pas, et que ce livre-là a des liens très, très évidents, me semble-t-il, et nos auditeurs sans doute vous ont découvert avec Cercle, qui commençait par l'histoire d'un homme qui balance, il me semble dans mon souvenir, à la Seine, ce qui va, tout ce qui le relie au monde, et que Yann Karski, livre très remarqué il y a maintenant quatre ans, raconte aussi, au fond, dans un autre monde, dans une autre époque, l'histoire d'un homme seul.
Oui, c'est même peut-être la question de la solitude politique. Peut-être qu'au fond, seule la solitude, pour moi, est politique. Peut-être qu'à une époque où la politique est l'objet d'une décomposition très voulue, enfin très, très violente, la seule communauté possible, si le mot de communauté est synonyme de politique, la seule communauté possible, ce serait le rapport avec soi. Donc cette solitude pour moi est dans le glissement que je vous décrivais, dans le glissement de l'écriture, cette solitude s'est mise à devenir comme une déclaration de guerre. Cet homme endormi se réveille peu à peu en lisant des signes qui s'écrivent sur les murs, en parlant avec à la fois des sans-papiers, des éboueurs qui sont maliens, qui viennent du foyer Barra, Montreuil. Et cet homme devient politique, il devient une force politique de manière très étrange, à lui tout seul.
Vous allez nous lire, Yannick Haenel, un autre extrait de votre roman Les Renards Pâles qui paraît à la rentrée aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. C'est un extrait que vous avez choisi.
Le monde n'est pas complètement asservi. Nous ne sommes pas encore vaincus. Il reste un intervalle, et depuis cet intervalle, tout est possible. Nous répétons ces trois phrases. Elles s'allument dans la nuit comme des étincelles. Le monde n'est pas complètement asservi. Nous ne sommes pas encore vaincus. Il reste un intervalle et depuis cet intervalle, tout est possible. C'est vrai, tout est possible. Il a suffi de quelques heures pour que Paris devienne le lieu d'une folle émeute et pour que les flammes qui embrasent les voitures se transmettent aux esprits des passants qui nous rejoignent. Une telle rapidité vous a sans doute surpris. Mais il était logique qu'un monde qui ne cesse de jouer avec le feu finisse par y succomber. Le débordement menace à chaque instant ceux qui s'imaginent gouverner un pays. N'avez-vous pas laissé le vôtre pourrir dans l'injustice? N'avez-vous pas fait de chacun de ses habitants le complice de votre décomposition? Il arrive un moment où plus personne ne supporte de vivre dans une société qui l'amoindrit. Ce qui éclate alors ne relève plus de la simple colère, ni d'une quelconque revendication. C'est un refus dont l'objet vous échappe parce qu'il implique que vous n'existiez plus. Ce moment, lorsqu'il arrive, éclaire d'une lumière nouvelle les frontières entre le vivable et l'invivable. Non seulement il les modifie, mais il anéantit l'idée même de frontières, car il suffit que l'invivable affecte quelques-uns pour que le vivable n'existe plus pour personne. Ne nous dites pas qu'une telle phrase vous semble abstraite. Sans doute faudrait-il vous la répéter 1000 fois pour que vous en soyez convaincu. Il suffit que l'invivable affecte quelques-uns pour que le vivable n'existe plus pour personne. Mais une telle répétition ne servirait à rien. Il est trop tard, et que vous le vouliez ou non, ce moment est arrivé, c'est maintenant.
Le début, Yannick Haenel, de la deuxième partie des Renards pâles, et on voit que le jeu, la première personne du singulier, s'est mué en nous, collectif, une parole aux allures presque de manifeste, une parole quasi prophétique. Peut-être qu'on peut commencer par ce titre, les Renards pâles. Peut-être que vous pouvez nous parler de cette étrange communauté dont le nom renvoie presque à des Indiens d'Amérique, comme ça, quand on y pense.
Absolument. Le parallèle avec les Indiens d'Amérique est très juste. Il s'agit d'une population sacrifiée. Les Renards pâles, c'est un mot que j'ai pris à la mythologie d'Ogon, à la cosmogonie d'Ogon, telle que Marcel Griaul l'a décrit. Le renard pâle, c'est le fils du dieu fondateur, et c'est en un sens le mauvais fils, celui qui va tuer son père, et c'est celui qui se met en travers de la création. Il est puni par les dieux, et on lui enlève la parole, il est transformé en animal, en renard, et il est condamné à errer dans le monde le plus sec. Il est le représentant de la parole sèche. Chez les Dogons, la parole, qui est le principe fondateur, est toujours humide, ce sont des agriculteurs. Et ce renard pâle, donc, ne peut plus parler, il ne peut qu'écrire. Avec ses pattes, il forme des traces dans le désert, traces qui vont être interprétées la nuit comme des signes de divination. Donc son écriture est sacrée. Il est le paria, le hors-la-loi, celui qui par ses signes, donne une autre direction. C'est un peu un démon. Et j'ai effectivement qualifié ce groupuscule étrange et masqué, constitué sans doute de sans-papiers, mais pas seulement, ce groupuscule d'hommes et de femmes noirs, mais pas seulement, et d'Africains, mais pas seulement. Je leur ai donné ce nom, les Renards pâles, qui est pour moi l'autre nom d'une révolution, d'une insurrection possible.
Yannick Enel, mettons-nous à votre place. Parlez-nous de votre position de romancier, parce que, comme Augustin le soulignait, nous avons entendu la scansion de ce « nous ». Pour qui témoigne le romancier ?
Alors précisément, en l'occurrence, il me semble que ce qui se dit à travers la deuxième partie de ce livre, ce manifeste, c'est une parole qui témoigne pour précisément ceux qui ne peuvent pas prendre la parole. Je vous disais que le renard pâle ne parle pas, il écrit. Et dans ce passage entre le « je » et le « nous » qui m'a surpris moi-même quand je l'ai écrit, j'ai senti une nécessité qui consiste très simplement à tenter de transformer une solitude en autre chose, en une communauté. Pour moi, la seule question vraiment politique aujourd'hui, ça a toujours été la seule question sans doute, c'est celle de la communauté. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'une communauté politique existe réellement ? Je veux dire en dehors des partis. Et donc, je me suis mis à écrire au nom d'une communauté, qui existe et en même temps n'existe pas sous ce terme. Communauté dont la revendication n'est pas sociologiquement politique. C'est une communauté qui va se déclarer et qui déclare la guerre à la France. Qui, en tant qu'ils sont sacrifiés, décident qu'ils sont la part la plus importante. Vous savez, anthropologiquement, dans le sacrifice, il y a toujours un reste, celui qui est destiné au Dieu. Ils s'identifient à ce reste. Et en tant qu'ils sont le reste, ils sont les seuls à ne pas être esclaves de l'organisation.
Qu'est-ce que vous apporte le roman pour ça, pour exprimer tout ça ? Qu'est-ce que vous apporte le roman par rapport à l'essai ? Vous auriez pu écrire un essai.
Mais précisément, moi, je dirais plutôt la littérature que le roman. Parce que ce livre est un peu hybride, au fond, puisqu'il devient, en cours de route, un manifeste. La littérature m'apporte quelque chose qui manque au discours politique et qui manque à l'essai. C'est tout simplement l'expérience sensible, l'expérience poétique, c'est-à-dire le langage. Je parlais d'expropriation tout à l'heure. Ce dont nous sommes tous expropriés, c'est d'un langage qui soit vital, enfin, qui puisse transformer nos vies. Pour moi, les échecs dont le XXe siècle est scandé, les échecs révolutionnaires, sont aussi, pas seulement, mais sont aussi fondés sur le fait qu'ils sont écrits dans une langue morte. C'est Van Egem qui disait, au fond, nous avons dans la bouche une parole morte qu'on nous enfonce sans cesse. Donc pour moi, la littérature est ce lieu où une pensée politique peut s'articuler avec quelque chose qui relève, et là je le dis avec des guillemets, qui relève du sacré. Un sacré qui ne sacraliserait pas quelque chose de religieux, mais un sacré qui serait justement dans les intervalles, par là où viennent les dieux. Moi, quand j'ai rencontré ces Maliens dont je parlais à Belleville, ce qui m'a frappé, c'est que, alors qu'ils ne l'exprimaient pas réellement, c'était qu'ils étaient en train d'installer sur les hauteurs de Belleville un dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient animés par un esprit. Même s'ils étaient athées, ils étaient animés par du spirituel, par une force. Et la littérature peut capter ça, poétiquement, cette force, et la coaguler, si je puis dire, et la donner à entendre.
Yannick Hanel, on vous a entendu lire deux extraits de votre livre. On a vu comme ce texte se réalise dans sa dimension sonore lorsque vous l'écrivez. Et là, on parle ici vraiment de la pratique de l'écriture au quotidien. Est-ce que vous le dites tout fort ?
Alors, je le dis, mais tout bas. je le chuchote. De la même manière que Jan Karski, je l'avais écrit dans un murmure et sa violence m'avait sauté au visage une fois publié. C'est un livre très violent. Mais moi, j'écris dans le murmure. Mais effectivement, il s'agit d'une mélodie, il s'agit d'un chant. Et Les Renards Pâles, pour moi, et ça vient aussi, vous parliez des Indiens d'Amérique, mais je parlerai aussi des Indiens, des Tarahumara. Pour moi, il est évident qu'il s'agit d'appeler, il s'agit d'inventer un appel, de faire venir à soi les forces, les esprits, de faire venir à soi ce que le monde occidental a appelé la révolution, mais c'est un appel. Et donc ça se dit, ça ne va pas sans dire. Oui, c'est une chose qui m'est arrivée en l'écrivant. Une rythmique est arrivée, et j'ai écrit cette deuxième partie dans un souffle, oui.
Quelle serait la musique de ces renards pâles ?
Je pense que ce qui pourrait coïncider, disons, avec leur chant, ce serait du free jazz. Ce serait tout Coltrane, mais plus précisément des morceaux d'Anthony Braxton, que j'ai beaucoup écouté au casque pendant que j'écrivais. Des expérimentations de free jazz et des emportements de free jazz, voilà.
Yannick Hanel, est-ce que vous pouvez nous relire la première phrase de votre livre « Les renards pâles » ?
C'est l'époque où je vivais dans une voiture.
C'était Les Bonnes Feuilles de Yannick Hanel par Sandrine Trainer, Augustin Trapenard, Clémence Marie, Valérie Lavalard et Isabelle Iuel.
Tout de suite, Si ça vous chante, de Sophie Nolot.